il y a deux ingénieurs américains qui ont eu l'idée de faire mieux entendre cette guitare en mettant sous les cordes métalliques un micro en forme de fer à cheval, et on peut dire que la première guitare électrique est née. C'est en Amérique que la guitare s'est électrifiée, et aujourd'hui, on peut dire que la plus grande partie des guitares sont des guitares électriques.
C'était une intervention divine. La guitare s'est imposée à moi. Ce qui est curieux, c'est que cette guitare a disparu.
C'était une sorte d'apogée avec l'électricité comme apport considérable.
Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une émission toujours libre de toutes les matières, de toutes les substances, de tous les riffs, de tous les jeux, en somme, une heure de radio sur la musique, et en musique bien sûr. C'est la série musicale. C'est sans doute l'instrument qui a le plus compté dans la musique populaire de ces 70 dernières années. Celle qui a le plus métamorphosé le son, l'approche, à la fois de la construction musicale, mais évidemment aussi de la scène. Par son existence même, on pourrait dire qu'elle a enfanté le rock, accouché des rockstars qui, sans elle, ne seraient rien. C'est évidemment la guitare électrique qui est au centre de notre série du jour. Comment l'électrisation d'un instrument venu de la nuit des temps a-t-elle ouvert une ère totalement nouvelle, une ère de modernité dans les années 50? C'est par l'invention tant technique qu'en termes évidemment de façon de jouer que la guitare a su faire rêver tous les musiciens à partir des années 50 et a créé finalement sa propre légende, ses propres personnages épiques, les fameux Guitar Hero. Et pourquoi, après près de 60 ans de règne presque hégémonique sur les scènes du monde entier, la guitare électrique n'est-elle plus si branchée? En hommage, un récit, une petite odyssée, alors évidemment, on prévient, comme toujours, absolument pas exhaustive, quelle ambition ce serait, forcément subjective. While My Guitar Gently Weeps, c'est la série musicale sur France Culture.
Turning while my guitar gently weeps.
Le chef-d'œuvre du Britannique George Harrison avec les Beatles. Jeune guitariste de 25 ans qui déjà imagine la vie vue de l'autre côté dans sa version originale, hein, sa version à guitare électrique. On vous conseille très vivement la version acoustique que George Harrison a offert aux fans des Beatles dans une anthologie, une fois qu'il est sorti du groupe. Et cette version acoustique raconte bien la sortie du groupe et l'après. Car oui, la guitare électrique, c'est la modernité. C'est effectivement par l'électrisation de cet instrument dont les origines remontent à la Renaissance qu'on peut peut-être dater l'arrivée d'une certaine musique moderne dans les années 50, mais peut-être même avant, dans les années 20. Ce qui est sûr, c'est que cette guitare électrique n'est pas née en Europe, elle n'est pas née en Asie, elle est bien sûr née aux États-Unis. Comment, quand, les débats restent ouverts, mais c'est bien au pays de l'oncle Sam qu'elle est née et avec elle la musique moderne. Il n'y a pas de hasard, comme l'expliquait le musicologue Joël Dugaud.
C'est en Amérique que la guitare s'est électrifiée et aujourd'hui, on peut dire que la plus grande partie des guitares qui sont jouées sont des guitares électriques. Mais il faut nuancer quand même le propos parce que la guitare, à l'époque où elle est arrivée en Amérique du Nord, n'était pas la guitare électrique, c'était plutôt la guitare romantique. Il y a de nombreux facteurs de guitare, en particulier originaires d'Allemagne et d'Autriche, qui sont arrivés aux États-Unis dès les premières années du 19e siècle et qui ont fabriqué les instruments qu'ils savaient déjà faire, c'est-à-dire des petites guitares romantiques à 6 cordes simples pour un public de petite bourgeoisie qui souhaitait pouvoir jouer de la guitare agréablement dans son salon. Voilà. Alors très rapidement, il s'est avéré qu'il n'y avait pas seulement ce public un petit peu bourgeois, mais qu'il y avait aussi d'autres gens qui avaient envie d'accompagner des chansons avec un instrument de musique comme la guitare, facile à transporter, léger, aussi peu cher. Les cultivateurs et les gardiens de troupeaux, chacune de ces populations avait aussi des traditions de chansons, et donc la guitare était l'instrument tout indiqué pour suivre ses habitudes artistiques et d'expression personnelle. Tell me, didn't it rain, oh rain, oh rain, children? Rain, oh my Lord, didn't it? Yes, didn't it? You know it did, didn't it? Oh, oh my Lord, didn't it rain? Tell me, didn't it rain, oh rain, oh rain, children? Rain, oh my Lord, didn't it? Yes, didn't it? You know it did, didn't it? Oh, was no land nowhere in sight. God sent a raven to bring the news. He hushed his wings and away he flew. Just I said it rained, you know it rained. Oh, how it rained, rained too long. My, it rained, rained all day, rain all night. Rain, rain, my, it rained, it rained.
La pionnière, le pionnier de la guitare électrique était en fait une pionnière, c'est Sister Rosetta Tharpe. On avait à cœur d'ouvrir cette émission avec elle, car cette musicienne hors pair a été l'une des premières musiciennes, des musiciens toujours confondus, à investir la guitare électrique à sa naissance aux États-Unis, à peu près aux alentours des années 30. C'est une figure inouïe, celle de Rosetta Tharpe, devenue Sister Rosetta Tharpe vers la fin de sa vie, femme qui a été un guitariste de talent, qui a influencé des gens comme Elvis Presley ou Little Richard, et qui a été profondément oublié jusqu'à ce qu'en 2018, le prestigieux Rock and Roll Hall of Fame accueille enfin en son sein cette grande dame à la vie complètement chaotique et prise de Dieu, reine du gospel qu'elle a amenée vers le rock, vous l'entendiez très bien ici, religieuse mais mariée, divorcée 3 fois et sans doute bisexuelle, hein, qui a longuement entretenu une relation avec la chanteuse Marie Knight que vous entendiez sur ce titre, Didn't Rain. C'est une femme extrêmement intéressante puisqu'elle a profondément emmené la guitare vers la modernité avec son jeu et ses solos tranchants, et parce que c'est l'une des premières à avoir investi la guitare électrique qui venait de naître. Alors comment est-elle née cette guitare électrique? Les débats encore 70 ans plus tard, voire un siècle plus tard, font rage. Ce serait le musicien et acousticien Lyle Lore, qui était acousticien chez Gibson, qui aurait entre 1920 et 1924 tenté d'électrifier des guitares acoustiques, c'est-à-dire des guitares creuses, avec une caisse de résonance à laquelle il a tenter d'adjoindre plusieurs micros électromagnétiques. Alors c'était une construction très traditionnelle, mais qui a permis à la guitare de marquer une vraie étape, c'est-à-dire qu'on pouvait l'entendre. Car la guitare, c'était sans doute, de toutes les formations musicales, l'instrument le plus délicat, le plus mélodique, mais le moins audible dès qu'on était dans des configurations de grosses salles. Après ces premières tentatives de Gibson en 1924, eh bien, il y a un modèle que lance Gibson en peaufinant un peu les explorations de l'or. Le modèle ES-150, c'est sans doute celui avec lequel Sister Rosetta Tharpe a commencé à jouer. Là encore, construction assez peu méthodique, mais qui fonctionne plutôt bien. C'est finalement grâce à un guitariste bidouilleur qu'émerge le premier vrai prototype de guitare électrique qui va faire mouche. C'est Les Paul, un musicien de country, bidouilleur, bricoleur invétéré, qui met au point The Log, la bûche, considérée comme la vraie première guitare électrique à caisse pleine. C'est une épiphone acoustique qui est coupée en deux. Au centre, une planche de bois rectangulaire avec 2 micros, un manche Gibson, qui existait déjà. Et toute cette conception va permettre finalement d'ouvrir la voie à ce qu'on appellera plus tard la solid body, la poêle à frire, Les Paul.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream.
Merle Davis, immense star de la country aux États-Unis, homme venu du Kentucky. Dans ce guitare rag, c'est l'un des inventeurs d'une technique de picking, de pinçage des cordes entre l'index et le pouce qui va faire fureur et profondément révolutionner le jeu de guitare. Lui, on lui doit une autre guitare, une autre prémisse de guitare électrique en 1948, donc c'est-à-dire 5 à 6 ans après ce qu'a mis au point Les Paul, qu'on entendait dans Mr. Sandman à la guitare, accompagné de sa femme Marie Ford. Merle Travis, lui, va se voir construire une guitare, et on entend bien à quel point l'histoire des facteurs suit celle des musiciens, qui est peu ou prou, à peu près celle, la même que Les Paul, à ceci près qu'elle introduit le design des guitares solid body, c'est-à-dire des guitares pleines, telles qu'ensuite elles vont être reconstruite par celui qui va totalement changer la donne. J'ai nommé Leo Fender, l'homme qui invente la guitare solid body, c'est-à-dire la guitare électrique d'un seul corps, qui va totalement changer l'histoire de la musique, comme l'expliquait le musicologue Christian Séguré.
Oui, c'était une nouvelle révolution qui est arrivée d'un monsieur qui s'appelait Leo Fender. Et en 1950, il a eu l'idée de construire une guitare qui est en fait une planche. C'était une planche de bois massive, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de caisse de résonance. Il y avait un manche qui était vissable à cette planche, donc c'est une guitare en kit en fait, qui est sortie d'abord sous le nom de la Broadcaster et c'est devenu ensuite la Telecaster. Alors c'est une guitare qui bizarrement a eu un petit peu de mal à s'imposer, parce que les musiciens de l'époque, c'était surtout les musiciens de jazz, de country, le rock n'existait pas trop encore, de rhythm and blues, et les musiciens de jazz, ils jouaient eux sur des belles guitares, des Gibson, des D'Angelico, des guitares avec une vraie caisse de résonance, avec des beaux bois, des belles essences, des belles incrustations. Et quand ils ont vu arriver cette planche de bois, ce machin en kit qui ressemblait un peu à une batte de baseball, ils se sont dit on se moque de nous, on ne va pas nous prendre au sérieux, donc ils ont boudé l'instrument. Et bizarrement, c'est les musiciens de country qui avaient l'habitude de jouer dans des bars un peu difficiles, avec une fréquentation un peu, des gens qui se battaient souvent en fin de soirée, ça pouvait être un petit peu dangereux de jouer dans les bars de country. Et pour eux, cette guitare était parfaite, parce que ça leur permettait éventuellement, s'il fallait sortir rapidement, de pouvoir se frayer un chemin à travers la foule. Si elle tombait par terre et que le manche se cassait, c'était pas un problème, on le renvoyait chez le constructeur, il en renvoyait un tout de suite. C'était une guitare très pratique. C'était une guitare pour un working man, pour un travailleur de la musique.
Shook me, baby. You shook me all night long. You know you shook me, baby. You shook me all night long. Keep on shaking me, darling, till you done messed up my happy home. You know you move me, baby, just like a hurricane. You know you move me, baby, just like a hurricane. Oh, you know you move me, sweetheart, just like a earthquake do the land. Oh, sometime I wonder what my poor wife and child's gonna do. Oh, sometime I wonder what my poor wife and child's gonna do. Oh, you know you made me mistreat them, honey. Oh, I'm madly in love with you. You know you shook me, baby. You shook me all night long.
glissando mythique de l'inimitable Muddy Waters, de son véritable nom McKinley Morgan Field, l'un des plus grands guitaristes de blues, qui va être l'un des premiers à s'atteler à transformer le blues et en faire une musique moderne grâce à la guitare électrique. Muddy Waters, qui est un fils de paysan, dont les débuts de vie sont très mal connus, puisqu'il il a vécu une vie de musicien errant pendant les premières années de sa vie, jouant de l'harmonica et progressivement se mettant à la guitare. On sait qu'il commence à enregistrer des disques dans les années 40, qu'il se fait un nom, notamment à Chicago. Mais c'est surtout lui qui devient célèbre, et c'est surtout grâce à son génie. Son génie, c'est celui d'inventer une nouvelle formation pour le blues, une formation qui est parfaitement adaptée à la guitare électrique à laquelle il s'est mise. C'est la fameuse Telecaster de Leo Fender dont on vous parlait. Évidemment, cette formation avec son groupe Hoochie Coochies va donner lieu à une sorte d'étalon. On va appeler ce type de formation les Chicago Blues Band, qui comporte en général plusieurs guitares, une guitare basse, un piano, un harmonica et une batterie. C'est ce son de blues très moderne qui s'installe, celui que vous avez entendu, avec évidemment les glissandos extraordinaires qu'introduit Muddy Waters. Muddy Waters qui donc investit cette guitare Solid Bodies et l'adapte au blues, blues qui était véritablement le genre de la guitare acoustique. Il est un autre guitariste qui, lui, va investir la guitare Solid Bodies dans un genre qui, là non plus, n'était pas particulièrement celui qui s'y prêtait, à savoir le jazz. On l'appelle l'art tatum de la guitare, c'est... Joe Pass, une inimitable guitariste de jazz qui joue une Fender Jaguar, une guitare Solid Bodies, a priori pas du tout adaptée au jazz, mais qui va lui valoir son succès. Ce n'est pas une guitare qu'il a choisie, car évidemment, il était déjà jazzman, mais dès les années 60, à une vingtaine d'années, il tombe dans la drogue et se fait interner dans un sanatorium à Synanon, où la seule guitare dont on dispose, c'est cette Fender Jaguar. Il se met à jouer dessus et c'est ainsi finalement que son succès va surgir. On l'entend, les bluesmen, les jazzmen se mettent à la guitare Solid Bodies, mais il reste évidemment des puristes qui revendiquent, en tout cas qui recherchent ce que la guitare acoustique permettait. Et c'est le cas par exemple de l'un des guitaristes les plus écoutés, les plus admirés de tous ceux qui vont créer le rock, l'inimitable B.B. King. B.B. King qui avait un nom pour sa guitare, elle s'appelait Lucille. Il se rappelait de sa toute première Gibson, une guitare acoustique qui avait brûlé dans un grand incendie. Lucille, qu'il a pleuré, qu'il a chanté dans deux chansons. Lucille, ensuite, c'est le nom qu'il a continué à donner à ses Gibson électriques. Des Gibson qui sont ce qu'on appelle des semi-hollow, c'est-à-dire à demi-caisse, et qui, pour autant, déménagent pas mal.
The thrill is gone. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You done me wrong, baby. You're gonna be sorry someday. The thrill is gone. The thrill is gone, babe. Thrill is gone away from me. Oh, no, I'll still live on. But so lonely I'll be.
Chat sauvage, première formation française de rock avec cette voix, ces arrangements, cette réverbération absolument unique. Ici, on entend une guitare solid body construite par des luthiers français exprès pour ce premier groupe de rock. Car oui, devenir un rocker, c'est aussi avoir une guitare. C'est l'instrument indispensable qui assied finalement une réputation. Comment la guitare électrique est-elle devenue l'instrument star de toutes ces formations de la modernité? Il y a plusieurs explications. Évidemment, la guitare est d'une part un instrument facile à maîtriser au début. C'est un instrument à la fois profondément mélodique et qui devient très rythmique, et grâce à l'électrification, on l'entend extrêmement bien. C'est aussi l'instrument du groupe par excellence, et c'est une période, cette période de l'après-guerre, où on se réunit, c'est une période aussi où on découvre le concept même d'adolescence et de jeunesse. C'est donc l'instrument qui devient le plus important, l'instrument star de toutes ces formations, et avec lui, la basse. Car quelques années après la fameuse Telecaster, Leo Fender récidive, 1954, arrive la Stratocaster, devenue absolument légendaire. Elle est équipée cette fois-ci non pas de deux, mais bien de trois micros, un de plus que celle d'avant. Et elle est très vite adoptée par des gens comme Buddy Holly ou David Gilmour. La légende de cette guitare, elle va s'inscrire dans la figure contestataire, le moment contestataire qui s'installe à la fin des années 60, notamment avec l'immense Jimi Hendrix.
La guitare était déjà à cette époque-là, dans les années 50, le compagnon traditionnel des chanteurs protestataires, et on va la retrouver entre les mains de John Baez pour brocarder les politiciens américains et lutter contre la guerre au Vietnam.
Jimi Hendrix, notamment, qui détruit l'hymne américain lors du festival de Woodstock.
On peut dire que c'était une sorte d'apogée, là, avec l'électricité comme apport considérable, hein, puisque là, la guitare franchit tous les espaces qu'on veut bien lui donner, quoi.
Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody else.
Jimi Hendrix, l'homme qui a ouvert le champ des possibles avec la guitare dans All Along the Watchtower. Belle, belle guitare de Jimi Hendrix qui finalement ouvre un nouveau champ. La guitare devient, avec un homme comme Jimi Hendrix, le lieu, l'instrument de l'émancipation, l'instrument de la performance aussi, évidemment, l'instrument de l'instant présent par excellence. Et ce qui est intéressant avec des figures comme celle de B.B. King et de Jimi Hendrix, c'est qu'elles poussent des nouveaux musiciens à tenter de dépasser la virtuosité de ses prédécesseurs. Jimi Hendrix qui a beaucoup joué la Stratocaster, mais qui a aussi joué justement une Gibson Les Paul pour s'inscrire dans la tradition de ces guitaristes bidouilleurs, de ces guitaristes géniaux. Cette fameuse Gibson Les Paul, qui sera ensuite rebaptisée Hendrix Gibson Les Paul, elle va être rachetée par
Un autre immense guitariste, j'ai nommé Frank Zappa, qui lui s'est essayé à tout. Il a joué autant sur des Fender que sur des Jazzmaster Fender, que sur des Gold Gibson SG. Son instrument de prédilection est resté tout de même, lui aussi, la Stratocaster. Mais peu importe finalement l'instrument, ce que Frank Zappa voulait faire vivre avec la guitare, c'est l'imagination. La plupart des solos de guitare que vous entendez sur scène ont été répétés des dizaines et des dizaines de fois. Et les gens jouent la même chose tous les jours. Ça n'a aucun intérêt. Ma théorie est la suivante. J'ai une connaissance basique du fonctionnement mécanique de la guitare et j'ai une imagination. Et quand le moment vient de jouer le solo, c'est moi contre les lois de la nature. Je ne sais pas ce que je vais jouer, ni ce que je vais faire. Je sais vaguement de combien de temps je dispose. Et on a un moment comme ça, et on peut le décorer. Évidemment, ce qui en sort dépend d'à quel point la section rythmique est en symbiose avec vous. Mais on peut faire des choses impossibles à imaginer ici quand on est assis. Elles existent pourtant en live, sous vos yeux. Je n'aime pas beaucoup les guitares solos, les solos de guitare qu'on entend en studio. Je pense que le plaisir de jouer de la guitare, c'est de jouer live. Imaginons le contraire. Si moi, je devais jouer la même chose tous les soirs, qui aurait besoin de cette merde ? I like your pants. Un enregistrement de Frank Zappa, enregistrement en studio, mais auquel il s'adonne comme s'il était sur scène. Frank Zappa, qui le disait bien, c'est l'improvisation qui reste maîtresse, et ça sera d'autant plus le cas que l'évolution de l'instrument va connaître une forme de stagnation si justement ce sont les progrès techniques apportés à l'instrument et à son électrisation qui ont véritablement porté l'histoire, non seulement de l'instrument, mais aussi de la musique moderne. Du blues, on est allé vers le rock, de la country aussi. Cette fois-ci, on connaît une petite période d'accalmie. On reste sur cette Stratocaster et c'est plutôt le mode de jeu qui va commencer à révolutionner ce que peut la guitare, le tout basé sur un enchaînement de guitares Hero qui cherchent tous à se dépasser, à innover et à explorer toutes les possibilités d'un instrument qui semble arriver à maturité, comme le racontait Christian Séguret.
Bizarrement, il ne s'est pas passé grand-chose, finalement, depuis l'avènement de la guitare solid body, c'est-à-dire cette fameuse planche qui est arrivée au début des années 50. Il n'y a pas eu énormément de grandes inventions. Une des premières avancées technologiques importantes, si on accepte les effets dont on vient de parler, c'était, je pense, dans le milieu des années 80, est arrivée... particulier un guitariste qui s'appelait Devon Allen, qui a fait avancer d'abord la technique de la guitare, le jeu simplement. Il y a beaucoup de techniques très différentes et très virtuoses, en particulier ce qu'on appelle le tapping. C'est une façon de jouer les notes sur le manche avec les deux mains. Et surtout, il a un peu contribué à populariser des avancées technologiques sur la guitare qui étaient pratiquement les premières depuis longtemps. On avait des vibratos. Les vibratos, c'est une espèce de mécanisme qui est sous la poignée qu'on a sous la main droite qui permet de désaccorder légèrement une corde en appuyant sur une poignée. Et ça, ça existe depuis 1954, depuis l'arrivée de la Stratocaster. Et Hendrix était un champion pour utiliser cette technique. Mais avec Van Halen et avec ces nouveaux vibratos qui sont arrivés, on a pu vraiment changer le jeu de façon assez radicale. On pouvait faire des plongeons de notes, des notes qui vraiment descendaient tout d'un coup d'un, deux octaves et revenir parfaitement sur l'accord. Il y a des guitaristes qui jouent au doigt avec des ongles et de pouce, avec le dos des ongles, avec le gras du pouce. Il y a plein de techniques différentes. Hein. Mark Knopfler joue sans médiator et sans onglet avec le gras des doigts. Bon, c'est vrai que le médiator, c'est un accessoire assez utile et même indispensable pour beaucoup, qui peut être décliné en un tas de matières différentes, ça dépend du style abordé.
Jump, Van Halen, on est dans 1984 et c'est la chanson numéro 2 au Billboard américain, juste derrière une chanson de pop. Une chanson de pop sur laquelle le guitariste Van Halen est toujours lui aussi présent car il s'agit de Beat It, le tube de Michael Jackson, issu de son projet Thriller qui sera l'un des disques les plus vendus de l'histoire du CD. Beat It produit par l'immense Quincy Jones qui à la fois a toute confiance en Michael Jackson dans ses années 80 mais qui sent aussi qu'il faut que son son évolue et qu'il évidemment se rapproche du rock qui est le genre maître. Quelle autre idée que celle d'introduire une guitare de talent. Il avait repéré Van Halen, jeune guitariste de 24 ans. Il lui propose à ce moment-là de faire un solo de guitare sur le morceau que prépare Michael Jackson. Solo de guitare que Van Halen rechigne un peu à faire car il y a une promesse entre les membres du groupe. On ne joue pas ailleurs pour d'autres gens. Mais en même temps, qui allait deviner que j'allais jouer sur ce bout de titre d'Ivan Allen qui en fait réécrit une partie de la mélodie de Beat It, améliore considérablement le titre et c'est le riff sans doute de la chanson qui fait l'immense succès de ce titre. Le son extrêmement saturé et le solo génial de Van Halen réalisé en une prise en 20 minutes en studio grâce à Quincy Jones, le son très identifié, un mur du son de Quincy Jones, c'est un son d'époque, on est aux années 80. C'est un tournant ces années 80 puisque on a compris Van Halen innove énormément. Évidemment, ses méthodes de jeu vont faire mouche, elles vont être reprises, mais il n'y aura pas d'avancée significative si évidemment le métal, le rock vont continuer à vivre des heures de gloire. Il n'y a plus d'étape symbolique ou technique aussi importante qui sera franchie jusqu'aux abords des années 90-2000. La guitare électrique est arrivée à maturité. Tout ce qu'on peut faire, c'est commencer à innover dans la matière qu'elle représente. Et c'est ce qui va se profiler avec l'arrivée d'un mouvement intitulé Drone Metal, où il ne reste que la guitare, rien que la guitare, bourdonnante, ample et absolument noyante. Pyroclast F, l'un des nombreux chefs-d'œuvre du groupe de drone metal Sun O, qui explore la guitare comme une matière, comme presque une incarnation de l'espace-temps. La guitare électrique serait-elle passée de mode ? Ne serait-elle plus si branchée que ça ? Le constat est assez triste, car en réalité, entre 2010 et 2019, les ventes de l'instrument phare du rock ont diminué d'un tiers. Elles sont passées de 1,5 million par an aux États-Unis à un peu moins d'un million. Gibson, dont on a entendu de nombreux modèles joués par de grands guitar heroes, a déposé le bilan avec 500 millions de dollars de dettes. L'autre titan, Fender, ses Stratocaster, ses Telecaster, véritablement marqué l'histoire de l'instrument, a failli rendre l'âme, mais a finalement sauvé la mise en se recentrant sur ces deux modèles d'anthologie, la Stratocaster et la Telecaster, parce qu'elles font l'objet d'un culte, bien sûr, et n'a pas voulu jouer le jeu de ces nouvelles guitares à modélisation qui sont autant des instruments de musique que presque des tableaux de bord, des ordinateurs. Pourquoi la guitare est-elle de moins en moins aimée ? Paul McCartney, immense bassiste, mais aussi guitariste à l'occasion, postule que c'est parce qu'on manque de guitares hero après les indépassables Zappa et Hendrix. Comment tenter d'exister ? Puis la musique se fait de plus en plus seule, par ordinateur. Le groupe ne fait plus rêver. On est aussi en passe d'accéder à une nouvelle ère, une ère peut-être moins patriarcale, vous l'aurez entendu, à l'exception de Sister Rosetta Tharpe. La plupart des grands guitaristes que nous avons entendus étaient des hommes. Quoique, restent des expérimentateurs et des expérimentatrices. On se quitte avec la géniale Nina Garcia. Chef-d'œuvre de Nina Garcia, une guitariste à voir sur scène et en live. C'est la fin de cette série musicale réalisée par Emmanuel Benito, mixée par Florent Bujon, préparée par Lou Quevauvillier.